Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Joe Biden and Kamala Harris will be the president and vice president of the United States.
Joe Biden, proclamé président par le Congrès américain il y a 2 heures, le chaos à Washington n'a fait que retarder de quelques heures cette confirmation. Et dans la foulée, Donald Trump a enfin admis dans un communiqué qu'il quittera la Maison-Blanche le 20 janvier, même s'il réaffirme son complet désaccord avec le résultat. Voilà les dernières nouvelles d'un épisode qui fera date, moment noir de l'histoire américaine, dit Joe Biden, un jour de honte pour beaucoup de commentateurs et de dirigeants étrangers. Dans un instant, dossier complet avec nos spécialistes et envoyés spéciaux et nos invités dans un quart d'heure, Nicole Bacharan et François Clémenceau.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fin de la mascarade, un quart d'heure après la validation par le Congrès de la victoire de Joe Biden, Donald Trump admet enfin que son mandat est terminé. Il promet une transition ordonnée. Il jette l'éponge en quelques lignes dans un communiqué diffusé il y a 2 heures par la Maison-Blanche, Alexis Guilleux.
Oui, et cette fois, pas d'attente ou de suspense. Donald Trump a réagi en quelques minutes via ce communiqué publié non pas sur son compte Twitter, mais par son cabinet. Il y aura une transition ordonnée le 20 janvier, avance le président, même si je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat de l'élection et que les faits le confirment. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, soit 2 mois tout juste après l'annonce de la victoire de Joe Biden par les médias américains. Et Donald Trump admet enfin que son mandat touche à sa fin, et c'est un renoncement pour lui, même s'il avance toujours qu'il a factuellement gagné l'élection. Il continue en expliquant que ce n'est que le début de ce combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors tout s'est joué ici à Washington en fin de nuit, un petit peu avant 4h du matin, quand le vice-président Mike Pence a validé la victoire de Joe Biden malgré les pressions à répétition reçues de la part de Donald Trump ces derniers jours. « La violence ne gagne jamais, la liberté si, et c'est toujours la maison du peuple », a déclaré Mike Pence à la tribune du Congrès, à cet endroit même envahi quelques heures plus tôt par des manifestants pro-Trump. « Remettons-nous au travail », a conclu le vice-président. Et deux questions se posent désormais, Patrick. Comment vont réagir les militants trumpistes? Ces militants chauffés à blanc par les propos du président depuis l'élection de novembre, vont-ils renoncer eux aussi? Et puis cette transition ordonnée dont parle le communiqué signifie-t-elle que Donald Trump assistera à l'investiture de Joe Biden dans 2 semaines? Pour le moment, on n'a pas de réponse.
Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. Xavier Yvon, on l'a dit, même si Trump réaffirme son désaccord, il admet pour la première fois qu'il ne sera plus président le 20 janvier.
Oui, c'est vrai, il avait toujours refusé de s'engager à une transition pacifique du pouvoir, même quand on lui avait posé la question directement lors des débats télévisés avec Joe Biden. Alors, on se demandait, après ce qui s'est passé cette nuit, s'il continuerait à mettre de l'huile sur le feu dans les 13 derniers jours de mandat qui lui reste. Bon, visiblement, il veut calmer les choses. Il ne reconnaît pas pour autant sa défaite. Mmh. Il n'accepte pas le résultat. Il n'accepte en fait qu'une partie de la réalité. Il ne sera plus l'occupant du 1600 Pennsylvania Avenue le 20 janvier.
Ce qui est tout de même assez important. Changement de ton complet en quelques heures, car c'est bien Trump, rendu furieux par le lâchage de son vice-président Mike Pence, qui dans un discours hier, tout aussi furieux, a incité ses partisans, les manifestants de Washington, à marcher sur le Capitole, Romain Nocquet.
Oui, car initialement, en fait, il n'y a aucune manifestation prévue aux abords du Congrès. Les partisans de Donald Trump, une foule de casquettes rouges, sont rassemblés sur l'esplanade derrière la Maison-Blanche pour écouter le discours du président.
Nous nous battons comme des diables et nous allons aller au Capitole et nous allons essayer de donner aux républicains le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays.
Des mots voilà qui vont galvaniser, surexciter même ces troupes. Des centaines de milliers de personnes commencent alors à remonter l'esplanade direction le Capitole à 2 km de là. La foule compacte assiège alors le Congrès dans l'improvisation la plus totale, raconte cette américaine.
Une fois arrivé au Capitole, personne ne savait vraiment quoi faire. On ne savait pas quel était l'objectif. Personne n'est sorti pour parler. Il n'y avait pas de moyen de faire retomber la tension pour toute cette foule.
Et justement, la tension monte. Les partisans les plus radicaux finissent par s'en prendre aux barrières de sécurité installées par la poignée de policiers très vite débordées. Rien à voir avec le dispositif en place lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Sur les images d'ailleurs, certains policiers sont projetés à terre, frappés. Les centaines de manifestants, eux, survoltés, hystériques, grimpent sur les corniches, les terrasses du bâtiment. Voilà, stop de style, arrêtez le vol des élections, scandent les soutiens de Trump. Dans un dernier élan, les manifestants enfoncent la dernière ligne du cordon de sécurité. Voilà ce que l'on entend, ce sont des vitres cassées, les vitres du Capitole. Ils finissent par entrer dans le bâtiment, dans une sorte d'hystérie collective, un peu plus d'une heure seulement après le discours de Donald Trump.
Roman Hockey, émeute qui ont donc fait au moins un mort, une Californienne de San Diego, ancienne militaire, tuée par la police du Capitole alors qu'elle tentait d'entrer dans le bâtiment. Intrusion absolument inédite dans le temple de la politique américaine, image saisissante d'une tentative d'insurrection au cœur de la plus vieille démocratie du monde. Que s'est-il passé précisément à l'intérieur au moment où le Congrès tout entier était réuni pour proclamer l'élection de Biden ? Théo Manval, vous avez recueilli témoignages et documents vidéo.
Oui, avec d'abord cette scène, la détresse d'un policier qui n'arrive pas à empêcher seul un groupe de partisans de Donald Trump de monter les marches vers l'intérieur du Capitole. Sa matraque télescopique ne dissuade personne. Très vite, des dizaines d'émeutiers parviennent dans les zones pourtant parmi les plus sécurisées de l'Amérique, hurlant leur slogan « Stop the steal », arrêtez le vol de l'élection. Ils entrent dans de nombreux bureaux, dont celui de la présidente de la Chambre des représentants, partent avec son pupitre, brandit tel un trophée. Des nuages de gaz lacrymogène flottent dans les couloirs. Drapeau Trump ou confédéré sur les épaules. Certains militants parviennent même à entrer dans l'hémicycle du Sénat. Évacués, s'y prennent en photo. Tandis qu'à la Chambre des représentants, des élus sont confinés derrière des portes barricadées. Cette représentante démocrate raconte à la chaîne CBS.
On a entendu des cris. Tous les élus qui se trouvaient en bas ont été évacués. Mais ceux qui, comme nous, étaient à l'étage, on ne pouvait pas sortir. On a mis nos masques à gaz. Ils nous ont dit « Mettez-vous par terre ». On entendait des tirs. Et on a vu la police barricader la porte avec des meubles. Ils étaient 6 agents derrière la porte avec leurs pistolets braqués pour arrêter quiconque essaierait d'entrer.
Les unités d'élite du FBI sont arrivées en renfort, mais la situation est hors de contrôle. Ici, des dizaines de personnes tentent de forcer une porte vitrée. Elles cèdent, une femme tente de la franchir. Un tir et elle s'écroule. Difficile de dire s'il s'agit bien d'Ashley Babbitt, soutien jusqu'au boutiste du président sortant, évacué sur un brancard visage en sang devant les caméras. Touchée par un tir de la police, cette ancienne militaire est, vous le disiez, morte à l'hôpital des suites de ses blessures.
Théo Manval, Xavier Yvon vous retrouve, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, pour quelques leçons politiques de cette insurrection présidentielle ou de ce président insurrectionnel, comme vous voudrez. D'abord, la solitude de Donald Trump qui a pratiquement tout perdu en une seule journée.
Oui, c'est vrai, il faut imaginer le président américain dans sa tour d'ivoire Maison-Blanche, branché sur la télé, privé du haut-parleur de Twitter. Hein. Il est 6h37 en ce moment à Washington. À cette heure-là, Donald Trump a déjà envoyé beaucoup de tweets. Là, rien du tout. Il est lâché par certains de ses plus fidèles alliés. Hein. Le sénateur Lindsey Graham, par exemple, qui a dit « Assez, c'est assez ». Et pourtant, il allait très loin dans le soutien à Donald Trump. Son secrétaire au Trésor, qui appelle au respect du processus démocratique. Il y a déjà 3 membres de la Maison-Blanche qui ont démissionné, dont une fidèle de la famille de Trump, la chef de cabinet de la Première Dame. On attend d'autres défections dans les heures qui viennent. Et selon les médias américains, certains membres du cabinet discutent même d'une possible destitution du président en invoquant le 25e amendement de la Constitution. C'est celui qui permet de déposer un président inapte. C'est difficile de dire si ça va se faire, mais le fait même que cette possibilité soit évoquée au sein du gouvernement, ça donne une idée de l'isolement de Donald Trump. Ça veut dire que certains dans son entourage le jugent dangereux, même à 13 jours de la fin de son mandat. Et puis même le fidèle Mike Pence, le vice-président courtisan, a fini par tourner le dos. Et avec le coup de marteau certifiant la victoire de Joe Biden tout à l'heure, il a comme enfoncé un dernier clou dans le cercueil de ce mandat aussi ahurissant qu'historique.
On reparlera de Mike Pence tout à l'heure avec nos invités, personnages clés sans doute de la journée d'hier. Trump qui laisse un parti républicain en miettes, en tout cas un camp fracturé comme jamais.
Oui, totalement, ça s'est vu clairement dans les votes cette nuit au Congrès. On a vu donc des élus républicains divisés en deux camps, ceux, disons, légitimistes qui ont approuvé la victoire de Joe Biden et puis ceux qu'on peut appeler les jusqu'aux Trumpistes qui ont voté contre la certification des résultats, notamment en Pennsylvanie, et ce même après l'invasion du Capitole. 7 sénateurs, 138 représentants qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance d'arriver à leur fin, mais qui veulent clairement se placer dans le sillon de Donald Trump et continuer à surfer sur son courant populiste. Le parti républicain est en train d'imploser. En 4 ans, Donald Trump a réussi à faire perdre à son camp la Chambre, la Maison-Blanche et donc le Sénat avec les résultats de la Géorgie hier soir.
Merci Xavier Yvon. Et parmi ce qu'il a perdu, il y a aussi ses moyens de communication préférés. Twitter et Facebook ont tour à tour suspendu ou bloqué les comptes du président américain. Là encore, c'est inédit, Clément Le Saffre.
Oui, et c'est presque inespéré, hein, puisque après des mois de réclamations, Facebook et Twitter ont dit stop à Donald Trump. Son compte officiel est suspendu 24 heures chez Facebook, 12 heures chez Twitter. En cause, une série de publications ambiguës à propos des violences au Capitole, et notamment une vidéo très relayée.
Cette élection nous a été volée et tout le monde le sait. Surtout le camp d'en face. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous voulons la paix. Donc rentrez chez vous. On vous aime. Vous êtes très spéciaux. Je sais ce que vous ressentez.
Cette vidéo qui a donc été retirée par Facebook, Twitter et YouTube, mais qui continue de circuler, reprise par d'autres comptes. Sauf que, pour les réseaux sociaux, cette fois, ça y est, Donald Trump a franchi la ligne rouge, très critiquée depuis l'élection de novembre pour leur demi-mesure face aux fake news du président américain. Ils sont enfin passés à l'action. Compte bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donald Trump ne peut plus poster de messages sur Twitter et Facebook pendant un temps limité. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Twitter a demandé au président de faire le ménage sur son compte. Et si ce n'est pas fait dans les heures qui viennent, il restera bloqué. Le réseau social a même brandi la menace d'une suspension définitive, y compris lorsque Donald Trump redeviendra un citoyen comme les autres après la passation de pouvoir du 20 janvier.
Clément Le Saffre.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les réactions dans le monde au grand désordre américain, les démocrates s'affligent, les dictateurs rigolent. Pékin compare la situation à Washington avec celle de Hong Kong. Le parlement local avait été envahi, mais par des manifestants pro-démocratie. Et pour Moscou, la démocratie américaine boite des deux pieds, commentaire d'un sénateur russe. Et à l'instant, le ministère des Affaires étrangères à Moscou parle du système électoral des États-Unis comme archaïque et ne remplissant pas les critères démocratiques. Premier dirigeant occidental à réagir en pleine nuit, 3h du matin, Emmanuel Macron en appelle à la défense de la démocratie. Jean-Rémy Baudeau.
Oui, c'est au cœur de la nuit, après avoir regardé les chaînes américaines, accompagné de sa cellule diplomatique, après avoir échangé avec notre ambassadeur à Washington, que le président a posté un message vidéo.
Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection. C'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battu en brèche.
Emmanuel Macron, solennel, devant trois drapeaux, français, européen et américain, un geste symbolique de respect, justifie l'Élysée. 2 minutes 24, avec un sujet, l'impérieuse nécessité de respecter la démocratie.
La France se tient aux côtés du peuple américain et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela.
Un message à peine voilé à des situations que la France a connues il y a deux ans. Les Gilets jaunes étaient aux portes de l'Élysée et de l'Assemblée. Un message assumé aussi par l'Élysée en direction des dirigeants politiques qui, en France comme en Europe, jouent sur les extrêmes et sur l'ambiguïté populiste. Comme encore récemment Marine Le Pen.
Eh bien justement, s'il n'en reste aucune pour défendre le président sortant américain, ce sera elle. Marine Le Pen, ce matin sur France 2, a trouvé des excuses à Donald Trump.
Manifestement, il n'a pas mesuré la portée de ses propos sur une partie de ces gens dont que la défaite a exacerbé, si vous voulez, et que les fraudes auxquelles il croit, je veux dire, encore une fois, lorsque on a le droit de contester une élection devant des tribunaux, bon, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait poussé à dire, écoutez, moi j'attends le résultat des tribunaux.
Vous l'avez désormais.
À partir du moment où la certification des votes est effectuée, il n'y a aucune difficulté pour moi et pour quiconque d'ailleurs pour admettre que Monsieur Biden est président des États-Unis.
Marine Le Pen, invitée des 4 vérités sur France 2, le dossier américain à suivre avec nos invités dans 3 minutes. La crise sanitaire, nouvelle conférence de presse ce soir, 18h, Jean Castex, Olivier Véran, pas forcément d'ailleurs pour étendre les départements soumis à couvre-feu, on ne sait pas, il semble qu'il n'y ait pas eu sur le plan de l'épidémie, il n'y a pas eu d'effet de Noël. Nous sommes à environ 14 000 nouvelles contaminations quotidiennes, en moyenne, sur les 7 derniers jours. 17% de plus tout de même par rapport à la semaine précédente, Victor Dolande.
Oui, il y a une légère tendance à la hausse, mais caractérisée par une grande instabilité. On a suffisamment de recul désormais pour voir que les fêtes de Noël, vous l'avez dit, n'ont pas eu une incidence trop marquée sur l'épidémie. On est en fait dans une période où ça peut basculer dans un sens positif avec donc une baisse des contaminations ou dans l'autre sens. Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier, explique l'actuelle instabilité.
Avec un nombre de reproductions autour de 1, l'épidémie n'est pas sous contrôle, mais elle augmente très lentement ou elle est stationnaire. C'est ça. On ne peut pas pour le moment dire exactement à quel niveau on en sera en fin de semaine.
Entre le retour des enfants à l'école, les températures hivernales plus propices à la propagation du virus et les incertitudes sur la circulation du variant anglais sur notre territoire, beaucoup d'épidémiologistes estiment que la semaine prochaine sera celle de tous les dangers. Et les tout premiers signaux à confirmer, bien sûr, n'inspirent pas vraiment l'optimisme. En effet, 96 départements voir leur incidence augmenter contre 24 il y a encore 5 jours. Il faudra donc scruter les nouvelles données hospitalières plus solides dans les prochains jours. Avec plus de 24 000 personnes hospitalisées à cause du Covid, les entrées ont augmenté de 1% sur les 7 derniers jours. C'est peu, mais attention à une augmentation prolongée dans les prochains jours.
Merci Victor Delande. À l'instant, annonce du parquet de Versailles, Karim Benzema est renvoyé en correctionnel. L'international français sera jugé pour l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015. L'attaquant du Real Madrid est soupçonné d'avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. Le temps, Anissa Haddadi, plus agréable au sud.
Oui, comme hier, Patrick, dans le sud, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes, en passant par l'Occitanie, le sud du Massif central et la Provence, eh bien l'après-midi est lumineuse avec un soleil parfois voilé, mais toujours très agréable. En Corse, le ciel est un petit peu plus couvert, avec toujours sur les côtes ouest de l'île de Beauté des petites averses. Plus au nord, en Auvergne, sur les Pays de la Loire et le centre, eh bien là, le temps est sec, mais le ciel est bien gris. Et puis dans le nord-est, du bassin parisien jusqu'à l'Alsace et puis jusqu'au Val-de-Saône, attention au brouillard qui persiste cet après-midi. Le temps est très hivernal sur le quart nord-est. Sur les côtes de la Manche, toujours une instabilité avec des éclaircies cet après-midi, mais pas mal d'averses sur le littoral. Les températures, elles sont froides. 0 à Saint-Étienne, 2 à Belfort, 3 pour Nancy, 5 à Paris et Bordeaux, 6 à Brest, 8 à Marseille, 10 à Nice et 12 à Bastia. Profitez-en dans le sud. Ce week-end, la tendance va s'inverser.
Merci à vous, Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Les leçons d'une journée ou de quelques heures de chaos pour la démocratie américaine. A tout de suite avec Nicole Bacharan et François Clémenceau.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Édition spéciale États-Unis avec nous en ligne une spécialiste bien connue des auditeurs d'Europe 1. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Patrick.
Merci d'être là. Et en studio, François Clémenceau. Bonjour François, rédacteur en chef au Journal du Dimanche, nos voisins du dessus ou dessous
Sixième.
Dessus, exactement. Et ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Nicole, je me tourne d'abord vers vous pour essayer de trouver une façon de à cette heure-ci, de regarder l'épisode qui vient de se dérouler sous nos yeux, puisque toutes les caméras étaient là-bas, à Washington. Tentative d'insurrection ou parenthèse spectaculaire, mais finalement inoffensive et sans conséquences pour la démocratie américaine.
Tentative d'insurrection, oui, puisqu'il s'agissait quand même d'intimider des parlementaires pour les obliger à changer le résultat de l'élection. Parenthèse, oui aussi, puisque les institutions ont tenu, que Joe Biden a été confirmé et que finalement Donald Trump va céder. Mais c'est une parenthèse qui laissera des traces, et des traces très profondes. Vous savez, personne n'avait attaqué le Capitole depuis 1814, pendant ce qu'on a appelé la Seconde Guerre d'indépendance, qui se déroulait contre les Anglais, qui ont envahi Washington et brûlé le Capitole jusqu'au sol. Depuis, il y avait eu des scènes épiques, des disputes, des manifestations autour du bâtiment. Jamais, jamais une invasion par une foule en colère du Capitole.
François Clémenceau, même question sur les conséquences pour la démocratie américaine et aussi sur les conséquences de la preuve de l'existence d'un noyau dur de partisans déterminés. On répète, certains étaient armés à l'intérieur du Capitole. On n'avait pas cette information hier soir parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. Certains des manifestants avaient les moyens de passer en force.
Oui, c'est une leçon, si vous voulez, à grande échelle de ce qui s'est déjà passé aux États-Unis et il n'y a pas si longtemps. Cet automne, vous avez eu des miliciens armés qui sont rentrés dans le Parlement du Michigan et qui ont obligé, et qui ont tenté d'obliger, avec pistolet sur la tempe à l'appui, des parlementaires de l'État du Michigan pour voter contre les mesures de restriction sanitaire qui avaient été décidées par le gouverneur du Michigan, qui est une femme, une démocrate. Et on voit bien, si vous voulez, qu'à travers ce mouvement, il y a une volonté de perturber effectivement le processus démocratique, de changer le cours des choses. Et en même temps, ces centaines de personnes, d'individus qui sont rentrés dans le Capitole hier soir ne sont pas non plus les dizaines de milliers qui étaient restés dehors. Il y a donc une distinction, si vous voulez, entre des supporters de Trump désespérés de voir la victoire leur échapper et qui veulent poursuivre ce rêve de grandeur avec le président Trump une fois le 20 janvier passé, et d'autres qui ne peuvent pas s'y résoudre et qui sont prêts à passer à l'action, pas forcément de façon structurée, coordonnée, façon commando, avec une organisation. On a bien vu la pagaille dans laquelle ça s'est fait. Ça ressemblait un peu à ce qu'on a vu chez nous avec les gilets jaunes à certains épisodes. Donc, mais ça traduit, si vous voulez, une capacité qu'il y a chez certains aux États-Unis de vouloir s'imposer par la force au-delà des institutions démocratiques. Ça n'a pas d'autre mot qu'une forme de fascisme.
Une tentation fasciste aux États-Unis.
Qui n'est pas nouvelle parce que vous avez eu par le passé aussi aux États-Unis, à certains moments de l'histoire contemporaine, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi après dans les années 50, cette volonté de se dire qu'il y a les forts et il y a les faibles, la démocratie n'est pas tout, la démocratie ça n'est pas qu'une élection, et ça me rappelle, si vous voulez, quand il y a eu la création du Tea Party, quand le Tea Party a essaimé à travers tous les États-Unis, c'était il y a à peine 10 ans, il y a eu une volonté à un moment de coordonner ce mouvement de façon politique pour en faire une sorte de parti républicain bis. Et à l'époque, quand j'allais voir ces gens et je leur disais « Mais c'est qui votre héros ?», ces gens me répondaient « Eisenhower ». Eisenhower n'était pas un fasciste, c'était juste un général de l'armée américaine qui était devenu président et qui voulait restaurer déjà à l'époque une forme de grandeur. Cette nostalgie-là, elle existe toujours aux États-Unis, et la question que je me pose, c'est de savoir si elle est capable de se fédérer pour se transformer en un parti musclé aux États-Unis.
Ce matin, Nicole Bacharan, ce matin, comme ces dernières semaines, on entend des rassuristes, parce que c'est comme pour le Covid, hein, il y a des rassuristes et des alarmistes, on entend des rassuristes dire « les institutions démocratiques américaines finalement ont tenu, ont passé le cap d'une élection très difficile et contestée, et puis finalement voilà, le Congrès a proclamé Biden président, mais que se serait-il passé si par exemple le responsable électoral de Géorgie avait répondu l'autre jour au téléphone à Donald Trump « Oui, d'accord, monsieur le président, je vais essayer d'inverser le résultat de l'élection et de vous trouver les 11 000 et quelques bulletins qui vous manquent ».
Absolument. Et c'est cette question-là, elle nous rapproche de cette tentation fascisante dont parlait François à l'instant. Et également, elle nous montre au fond que ce qui s'est passé hier à Washington, c'est une tentative de coup d'État par le président sortant, mais totalement incapable d'organiser un coup d'État. Parce qu'il a appelé avec une extrême véhémence, je l'ai écouté, pendant plus d'une heure, ses partisans à marcher sur le Capitole et répétant qu'on avait volé son élection. Et puis les gens ont marché sur le Capitole et puis ils sont entrés dans le Capitole. Et là, eh bien, on a senti qu'à la Maison-Blanche, Donald Trump, il ne savait plus que faire. Espérait-il que sous la pression des gens autour du Capitole, les parlementaires changeraient d'avis? En fait, vous le rappeliez très justement, les institutions ont tenu. Les tribunaux, par exemple, ont rejeté les recours absolument infondés sur les fraudes électorales, avec des juges républicains, démocrates. C'était sans importance. Mais ce qu'il a manqué à cette tentative hier, eh bien, c'est l'armée. Donald Trump a toujours su que l'armée ne suivrait pas. Mais c'était une sorte de coup d'État en pleine pagaille, organisé par un homme qui ne sait rien organiser.
Coup d'État inorganisé, c'est un peu un oxymore, si
oui,
je peux
c'est
me permettre.
Vrai, vous avez raison.
Nicole Bacharan, parce que normalement, un putsch, c'est préparé, organisé. François Clémenceau, un dernier mot.
Oui, mais le fait même, si vous voulez, qu'il y ait un certain nombre de responsables politiques américains, ou judiciaires d'ailleurs, qui se soient désolidarisés, il faut le dire, extrêmement tardivement, après avoir soutenu Trump dans ses démarches de contestation de l'élection. Je pense notamment à Mike Pence, mais pas uniquement. Je pense aussi à Stephen Miller, son conseiller politique. Je pense à Pat Cipollini, son avocat à la Maison-Blanche, vous savez, qu'il a défendu dans son procès pour destitution et qui, hier soir seulement, a donné l'ordre aux collaborateurs de la Maison-Blanche de cesser de prendre les ordres du président Trump parce qu'il y avait menace de sédition. Je veux dire, tous ces retournements de veste de dernière minute traduisent, si vous voulez, une aventure qui est allée trop loin, mais dont les principaux responsables ne se sont rendus compte qu'à la toute dernière minute, comme si, depuis le 7 novembre, ils n'étaient pas possible de dire au président ouais. « ça suffit, les jeux sont faits ».
Oui, ils sont rattrapés simplement par leurs intérêts immédiats. C'est une manière de sauver sa peau dans la dernière minute. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cynisme et de pusillanimité chez tous ces responsables-là. Mais Mike Pence a joué... sans doute un rôle qu'il faudra éclaircir hein, dans terrible. Les prochains jours, parce que c'est lui qui signe le décret de convocation de la garde nationale.
Et vous avez vu ce qu'il dit devant les sénateurs, oui. lorsqu'il explique pourquoi il ne peut pas inverser les résultats. Il dit « parce que je suis contraint par la Constitution ». Et vous ne savez pas si cette contrainte, il la regrette, ou si finalement, elle l'oblige.
Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir été en ligne avec nous. Merci François Clémenceau, qu'on peut lire, continuer de lire dans le journal. Et puis vous avez un blog en plus dans le journal du dimanche, et puis un blog sur le JDD ?
Trump Power sur le JDD.fr à lire cet après-midi.
Merci à vous deux.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h de Simon Rubin. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.